Tout le monde sait que lorsqu'il est question de parler d'immobilier, ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la Bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La Bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18 h à CJMD 96.9, l'Alternative Radio.
Talk rock et hip-hop, la recette qui lève.
5, 4, 3, 2, 1, 0. La Bulle immobilière. La Bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin. Courtier immobilier. Et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La Bulle immobilière.
Hey, on est avec Nicolas Ray pour le Real Talk. Salut Nicolas.
Yes, le Real Talk ou le Real Tug?
Non, le Real Talk. C'est un peu des deux, je pense.
Ben, j'étais quand même connu comme le goon de l'immobilier, là, tu sais, je pense. Ouais. C'est mes années de hockey qui ressortent un peu, là. Je suis connu pour mon franc-parler, puis je suis très reconnu pour un peu casser les rêves, mais surtout casser les pelleteurs de rêves ou les pelleteurs de nuages pour être sûr que les gens savent dans quoi qu'ils vont embarquer en investissement immobilier, puis que ce soit pas juste des conneries de « Ah, je vais lâcher ma job en 90 jours, puis je vais vivre de l'immobilier du jour au lendemain. » Tu sais, c'est pas ça l'immobilier. Fait que je pense que c'est à propos d'être le Real Talk, puis je pourrais être le Real Thug, si tu veux aussi.
C'est parfait, ça. Écoute, c'est un nouveau partenariat qu'on a aussi avec la Bulle immobilière. On tient à te remercier aussi de croire à notre émission, puis de permettre de faire des nouvelles chroniques immobilières où ce qu'on va parler de différents sujets, une chronique de 12 à 15 minutes où ce que tu viens nous donner ton expérience, ton expertise, puis nous ramener un peu à la réalité de qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier.
Ouais, toute la vérité, ça me fait plaisir d'être là, je pense que c'est important. Tu sais, l'investissement immobilier, c'est une des manières les plus sûres et les moins dangereuses de s'enrichir puis d'investir. Je pense que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, avec le coût de la vie, avec l'accessibilité aux investissements qui est plus compliqué, écoute, si on peut ouvrir les yeux puis ouvrir les portes de l'immobilier pour monsieur, madame, tout le monde, les gens qui écoutent l'émission, mais tant mieux.
Ce que tu vas nous faire comprendre, c'est que c'est pas nécessairement facile.
C'est pas nécessairement facile. C'est accessible, mais c'est juste qu'il faut être réaliste. Puis se faire croire plein d'affaires, ça rend pas ça plus accessible. Au contraire, je pense que ça empêche les gens d'accéder.
De voir clair.
Exact.
Puis dans notre première chronique, qu'est-ce qu'on va parler? Ça va être beaucoup plus au niveau du premier achat, premier investissement. Souvent, notre premier achat, on va regarder un jumelé parce qu'on n'a pas des revenus suffisants, par exemple, pour avoir une maison à 400 000 ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis c'est quoi ton point de vue par rapport à ça au niveau des investissements, pas des investissements immobiliers, mais ton premier achat? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens par rapport à ça?
Ouais. Ben écoute, c'est sûr que on voit souvent, puis tu sais, dans la culture québécoise, puis je pense encore plus à Québec ici même, puis à Lévis, où est-ce qu'on est en tournage. Tu sais, les gens, généralement, quand ils vont avoir entre, on va dire, 22 puis 30 ans, vont faire leur première acquisition immobilière. Ça va souvent être une maison, tu sais, généralement une maison de 2 à 300 000, un bungalow des années 60-70, ou peut-être un jumelé, comme tu l'as mentionné, ou aussi un condo, même si les condos, c'est moins populaire à Québec qu'à Montréal, parce qu'on a un peu plus d'étalement urbain, les gens veulent plus d'espace, mais... Moi, je pense que c'est le pire achat que tu peux pas faire. Tu sais, si ton premier achat immobilier, c'est de t'acheter une maison ou de t'acheter un condo ou un jumelé, c'est la pire chose que tu peux faire. Écoute, j'ai travaillé avec beaucoup de grands investisseurs puis beaucoup de grands entrepreneurs. Puis il y a un monsieur que j'ai rencontré à Gatineau, il s'appelle Eugène Tassé. Monsieur Tassé a d'ailleurs un livre super intéressant à lire qui se trouve dans tous les magasins de livres au Québec. C'est « Les secrets d'un homme riche ». Ça a été écrit par Manon Reich. Puis Manon Reich passe un peu en entrevue M. Tassé puis crée comme une histoire autour de ça. Mais M. Tassé, c'est un homme qui a commencé l'immobilier, je pense, dans les années 50. T'sais, aujourd'hui, il a 90 ans. Il a commencé dans les années 50, puis il a commencé par s'acheter un quadruplex avec une boucherie au rez-de-chaussée, puis un autre petit commerce, puis en haut, il y avait deux logements. Puis il a même appris comment être boucher pour pouvoir opérer la boucherie, puis il habitait en haut dans un des logements, puis il est resté dans son 4,5 en haut avec ses... Puis écoute, je me trompe peut-être dans les chiffres, là, mais environ 8 enfants dans un 4,5, jusqu'à temps qu'il y ait une valeur nette de 3-4 millions. On va dire que c'est un peu extrême, là, ça c'est clair, là, mais tu sais, un peu à la Warren Buffett également, qui a toujours un peu sa même maison, puis qui n'achète pas des grosses voitures. Mais ultimement, M. Tassé, lui, ce qu'il disait dans les mêmes discussions que j'ai eues avec, parce que j'ai passé des centaines d'heures avec lui, on essaie de transiger son parc immobilier qui vaut presque 100 millions de dollars. M. Tassé disait qu'il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi les gens s'achètent autant une maison ou un condo. Une maison, c'est pour les gens riches. Lui, c'est ça qu'il dit. Il dit, tant que t'es pas riche, t'as pas d'affaire à t'acheter une maison. La vérité, c'est que quand on connaît un petit peu les coûts d'acquisition, les coûts de maintenance d'une maison, puis tout ce qui vient avec, c'est la mise de fonds, les frais de notaire, l'évaluation, l'inspecteur, puis après ça, une fois que t'as acheté ta maison, tu payes tes taxes municipales, tu payes ton hypothèque, après ça, ça te prend de la TV, comme qu'ils disent, ça te prend Hydro-Québec, toutes ces choses-là.
Puis tout l'entretien qui vient avec. Mais aussi.
Mais là, t'as pas compté l'entretien. Puis tu sais, toi, Jeff, t'es en transit, j'ai maison à Lévis, là, t'es... Tu sais, un bungalow des années 1970, là, tu payes ça 2,25 à 275 000. Faut que tu t'attendes à ce que dans les 5 premières années, là, tu vas au minimum probablement avoir un 40 à 100 000 à mettre dans cette maison-là. Puis ça, c'est pas... T'as pas fait agrandir la maison, t'as pas transformé ta maison en un château, là. Ça, c'est juste l'entretien.
T'as rafraîchi la salle de bain d'origine.
Exact.
T'as rafraîchi la cuisine d'origine.
Ben oui.
Puis le sous-sol, ben, tu sais, t'as revu les configurations pour enlever le préfini puis remettre ça à ton goût, là. Ben,
c'est ça. Puis écoute, la vérité, c'est que tu t'es même pas vraiment rendu là. Tu sais, t'as refait tous tes stores de ta maison, tes rideaux. Les portes et fenêtres étaient sûrement à changer, comme dans tous ces cas-là, parce que les vendeurs... Ils sont un petit peu tannés. Ta toiture est sûrement due parce que les vendeurs, quand ils ont fait faire la toiture, voilà 7 ans, ils l'ont fait faire par des débutants. Fait qu'elle a été mal faite. Fait que là.
Ils ont fait juste un pan de la toiture.
Ouais, c'est ça.
Au minimum.
Exactement.
Ouais. Salut au soleil.
Ouais, c'est ça, c'est la reconstruction en plus.
Ouais.
Tu sais, là, tu le vois.
Ben, les bungalows de ces années-là, puis le monde, même s'ils essaient d'aller vers un achat plus bas, ils ont toujours quand même les goûts et l'aspiration de le ramener au goût du jour.
C'est
fait
clair.
Qu'ils se font prendre dans la trappe de mettre.
C'est
30,
clair.
40, 50, 60, 100 000 pour
ben
leur mettre. Fait que finalement, leur maison leur coûte début 300 000.
Ben après ça, tu sais, tu veux une piscine, tu as des enfants, tu veux une piscine. Là. Si tu es en couple, tu veux un jacuzzi, un spa. Après ça, ton deck est sûrement tout à refaire au complet. Comme des fêtes, tu as un arbre qui tombe dans le chemin la veille de ton premier Noël chez vous. Je parle par expérience. Puis au deuxième été, ben ton gazon est tout à retourber au grand complet parce qu'il est mort, parce qu'ils l'ont pas bien entretenu. Tu sais, ça va vite, là. Puis là, faut pas que tu te chicales avec ton voisin, parce que si tu te chicales avec ton voisin, tu vas être obligé d'installer 5 000$ de headset entre toi et ton voisin. Fait que ça monte vite, puis là, on n'a même pas parlé des luminaires, on n'a pas parlé de rien d'extravagant ou d'extraordinaire. Les meubles, toutes ces choses-là, ça fait en sorte que ça coûte beaucoup d'argent. Puis ça, c'est pas de l'argent que tu peux mettre sur ton hypothèque là, ou sur une marge de crédit, c'est de l'argent comptant que tu dois dépenser. Fait que c'est de l'argent après impôt qui coûte très, très cher. Alors moi, mon point, c'est de dire que, écoute, si tu as entre 22 et même 34 ans, le plus possible, achète-toi pas une maison ou un condo ou un jumelé. Achète-toi au moins un triplex, au moins un quadruplex, comme propriétaire occupant. Habite-le pendant un bon moment, comme ça, pendant au moins le premier terme de l'hypothèque, on va dire les 5 premières années, ben t'as 2 ou 3 autres personnes qui paient en partie pour le bâtiment que t'as. Puis toi, ça te permet de commencer à avoir ce qu'on appelle un véritable actif. Parce que les gens pensent qu'une maison, c'est un actif. Puis pour tous les gens qui ont sûrement déjà lu « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, puis il y en a plein d'autres livres, là, mais c'est celui-là le plus connu, où il explique ultimement la différence entre un actif puis un passif. Mais tu sais, une maison, même si ça peut prendre de la valeur, ça prend pas nécessairement de la valeur. Puis une fois que tu constates toutes les dépenses d'exploitation ou de détention qui viennent avec la maison sur une durée de vie de maison, puis que là-dedans, tu considères l'inflation, donc le fait que ton dollar dans 10 ans, il y a moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, bien, on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai que les maisons prennent tant de valeur que ça. Au contraire, même, il y en a qui n'en prennent pas, Puis là, avec des cycles immobiliers un peu montant, descendant, ça se peut qu'il y en a qui se ramassent avec les culottes baissées, puis que dans 5-10 ans, leur maison, elle vaut pas plus cher. T'sais.
Puis tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est tout ce qui est d'investissement qui va être fait sur la propriété. On va pas retrouver 100% du dollar investi.
Ben non.
Fait que, tu sais, souvent, on parle, tu sais, une cuisine, salle de bain, on va récupérer 70-80% de qu'est-ce qui a été mis, rafraîchi, etc. Par contre, tu sais, on fait des planchers de bois franc, c'est pas à cause qu'on a acheté des clous, on a acheté de la colle, on a acheté du carton, puis on a remis des moulures peinturées, que ça va prendre 100% de l'investissement qu'on va faire. Non, fait que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont investir souvent un 40-50 000 $ qui sera pas déductible d'impôt, sera pas déductible dans leurs dépenses.
Puis qui ont payé avec de l'argent après impôt.
Qui ont payé avec de l'argent net, là, tu sais, impôt payé, qui fait en sorte que ça devient un peu plus risqué au niveau du retour de l'investissement. Ouais. Parce que si pour X raison on revend sur une courte période, par exemple un 12, 18, 24 mois, ben là, on arrive avec un investissement qui va avoir coûté plus cher que qu'est-ce que la valeur du marché va être prêt à payer pour l'investissement. Puis, tu sais, souvent, malheureusement, on voit ça régulièrement dans les ventes là, rapides sur des courtes périodes où ce que les gens, malheureusement, vont payer pour vendre leur propriété parce qu'ils ont fait des travaux, des fois, peut-être pas au goût du jour, peut-être pas nécessairement au goût at large, qui va faire en sorte qu'on va cibler précisément un type de client ou des travaux vont avoir été faits pour notre confort. Puis c'est souvent ça que je dis, hein, tu sais, faut vraiment faire attention aux extras qu'on va faire parce qu'on va avoir beaucoup de temps qu'à y être, mais il faut le faire pour notre confort, pas une question monétaire.
Ça, c'est clair. Puis, tu sais, il faut pas oublier la partie que... un actif, c'est quelque chose qui te génère des revenus. Puis une maison, ça ne te génère pas des revenus. Tu sais, dans le meilleur des mondes, une maison, c'est peut-être de l'épargne forcée. Parce que tu as besoin de vivre à quelque part. Tu sais, tu allais vivre sûrement dans un logement ou tu allais louer à un endroit précis. Puis tu sais, on s'entend que quand tu vas louer, c'est peu probable que tu vas épargner la différence entre ce que ton loyer te coûte versus, mettons, ce que ton hypothèque te coûterait. Donc, dans ce cas-là, oui, acheter une maison... Je peux comprendre que c'est un peu de s'imposer, en fait, une obligation d'épargne. Mais, tu sais, comme on dit, comme tu viens de dire, tous les investissements qu'il y a à faire, avec l'entretien qu'il y a à faire, finalement, c'est discutable si c'est vraiment un investissement. Alors, le plus possible, quand on commence dans la vie, quand on commence comme adulte, là, c'est important de se concentrer à bâtir des actifs, surtout si on veut avoir un jour une sorte de liberté financière, qu'elle soit complète, qu'elle soit partielle, mais tu sais, d'avoir la liberté de ses choix, puis peut-être que, tu sais, je parlais avec une de mes employées l'autre jour, elle a 25 ans, puis son chum aussi, puis elle me dit, je commence à magasiner une maison.
Fait que tu as référé mon nom, etc.
Ben oui, c'est clair.
Ça, c'est
j'ai dit, sauf que là, tu vas appeler Jeff, puis tu vas te trouver un triplex ou un quadruplex, tu ne trouveras pas de maison, parce que c'est le pire achat que tu peux faire. Tu sais, elle aime le luxe un peu, puis elle veut voyager, puis si pis ça, ben écoute, à moins que toi et ton chum, vous allez gagner un revenu familial de 200, 250, 300 000 par année, je vois pas comment tu vas faire pour te le payer, ce luxe-là. Là, tu vas t'acheter une maison, tu vas être obligé d'investir dans cette maison-là, ça ne te générera pas plus de cash flow, ça va tout venir gruger ton budget. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est de t'acheter un triplex ou un quadruplex. Comme propriétaire occupant, la SCHL va te fournir une assurance hypothèque qui te permet de juste mettre 10 % de mise de fonds. Mais tu sais, 10 % de mise de fonds sur un triplex à 300 000, c'est quand même 30 000. Je veux dire, il n'y a pas une grande différence avec l'achat d'une maison à 250 000 avec 5 % de mise de fonds. Fait que fais un peu plus d'efforts, achète-toi ça. Anyway, tu peux rapper. Si tu n'as pas encore rappé, si tu n'as pas encore utilisé tes REER, tu peux utiliser une technique de rap que je suis convaincu qu'on pourra peut-être, tu pourras peut-être parler d'autres experts là-dedans. C'est pas ma spécialité, mais tu pourrais rapper pour avoir ton prêt, pour avoir la mise de fonds pour ton triplex, ton quadruplex. Puis là, ben, tu vas avoir deux ou trois autres logements qui vont payer ton hypothèque puis toutes les dépenses d'entretien d'immeuble en plus de toi. Puis là, moi, ce que je suggère après ça, c'est que dans 3-5 ans, lorsque ton immeuble aura pris un peu de valeur, ben là, tu auras le choix. Tu auras le choix de garder ton triplex, ton quadruplex, et maintenant de refinancer sur cette nouvelle valeur, donc utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, refinancer sur cette nouvelle valeur pour avoir une nouvelle mise de fonds, pour là aller acheter ta maison ou ton condo ou ton jumelé que tu veux, ou sinon encore mieux, puis ça c'est ce que M. Tassé de Gatineau dirait, achète-toi pas tout de suite une maison, achète un autre triplex ou un quadruplex, puis après ça, mais que les deux aient pris de la valeur, là tu les refinanceras, tu prendras l'effet de levier sur ces deux-là, puis là tu t'achèteras une maison, parce que là, à ce moment-là, tu vas avoir peut-être 6 à 8 locataires payent les hypothèques de tes propriétés. Tes propriétés ont plus de chances de prendre la valeur. Ils payent pour les rénovations. Puis là, tu es en train de t'enrichir. Puis juste cette une ou deux décisions-là pourraient faire toute la différence au monde pour un couple qui gagne 70 000. 90 000, 100 000, 150 000. Tu sais, c'est à peu près ça le revenu médian à Québec.
Le revenu, c'est 90 000
provincial. C'est 90 000. Bon, fait que, tu sais, un 70 000 à 120 000 de revenu familial, là, juste de prendre cette décision-là, là, de retarder l'achat d'une résidence principale unique, puis d'y aller avec une résidence principale d'investissement en triplex, quadruplex, puis de faire ça une à deux fois. Écoute, ça peut complètement changer le cours de votre vie, ça peut complètement changer votre succès financier, puis votre capacité à avoir une liberté financière. Puis là, c'est même plus une question de viser pour liberté 55 ou même aujourd'hui liberté 65, mais je veux dire, dès l'âge de peut-être 40-42 ans, tu pourrais avoir la liberté de dire « Ah, moi, je pars un an, on quitte nos jobs, on s'en va voyager avec nos enfants. » Ou tu pourrais simplement vivre peut-être une vie plus de luxe ou penser à commencer à avoir un beau chalet au lac Sept-Îles ou au lac Saint-Joseph. Mais il faut faire ces choix-là en premier afin d'être capable ensuite de profiter de ces choix intelligents financièrement.
Puis, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui pensent à ça, mais qui se disent « Je suis pas fait pour l'immobilier, je suis pas initié à ça, je connais pas ça, je sais pas comment gérer des locataires, je m'embarque dans quelque chose de plus gros qu'avoir mon chez nous, mon petit patio, ma petite tranquillité.
Ben, »
Est-ce qu'il faut combattre ça?
Moi, je pense que oui. Je suis pas fait pour ça, ça n'existe pas. T'sais, la vérité, là, tout le monde est fait pour tout. On est des êtres humains, on est super adaptables, on est capable d'apprendre quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'on est tous faits pour être astronautes, là, mais là, on parle pas d'être astronaute, on parle d'acheter un triplex ou un quadruplex. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent mettre leur peur de côté, puis c'est aussi une question de ce que tu veux. Si toi, la liberté financière, c'est pas un de tes objectifs ou un de tes ambitions, puis tu t'en fous, ben écoute, vas-y, achète ta maison, puis je veux dire, vis ta vie, puis sois heureux d'avoir ta maison, puis de passer ta vie à la payer, puis c'est correct, je dis pas ça péjorativement, mais la vérité, c'est que la plupart du monde aimerait avoir la liberté financière, puis tu sais, je veux dire, moi, les gens me regardent, ils me suivent sur Instagram, sur Facebook, tout ça, puis je suis quand même quelqu'un qui vit en dessous de mes moyens, mais tu sais, malgré ça, je veux dire, j'ai des belles voitures, j'ai une belle maison, je voyage énormément, puis le monde vient de me voir, puis dit « Comment ça se fait que t'es capable de faire ça? » C'est pas parce que je gagne énormément d'argent, oui, j'ai un super de bon salaire, beaucoup plus que la moyenne, mais c'est parce que j'ai été capable de retarder pendant longtemps mon désir de consommer, puis d'avoir ce luxe-là, puis de faire des choix intelligents, puis de réinvestir. Puis pendant combien d'années que j'ai réinvesti dans mes entreprises, puis même aujourd'hui encore en immobilier dans mes entreprises. Fait que c'est toujours une question d'ambition puis d'objectif. Tu sais, si tu veux pas avoir de liberté financière, tu veux pas te bâtir un bon coussin puis une belle retraite, puis tu veux pas goûter aux plus belles choses de la vie ou des choses que tu désires goûter dans la vie, pas nécessairement que sont plus belles, ben ça va de soi. Mais si tu as ça comme objectif, puis que tu n'as pas la capacité de gagner des plusieurs centaines de milliers de dollars, parce que, tu sais, on va se le dire, là, même gagner 200-250 000 par année comme famille, tu n'es pas riche, tu n'es pas en jet privé à te la péter. Là. Une fois que tu as payé tes impôts, là, il n'en reste pas tant que ça. Là.
Non, il n'en reste pas tant que ça. Puis, tu sais, dans les choses vraiment que moi, je retiens de ce que tu parles, il y a trois choses importantes. Au niveau des travaux, ben un des avantages que tu vas pouvoir faire, c'est de donner une valeur aussi à tes immeubles en les rénovant, eux autres aussi, parce que tu vas avoir besoin de le faire dans tes propriétés.
Parce que contrairement à ta maison, quand tu rénoves ou que tu investis en entretien dans tes immeubles, il y a des très très fortes chances que ça augmente la valeur de ton immeuble. Fait que tu sais, ton 100 000 que tu mets dans ta maison en réno, là, ça valera peut-être pas 100 000 à la revente. Ton 100 000 que tu mets dans ton plex, ça va peut-être même valoir 150 000 au refinancement.
Exact. Fait que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça te permet aussi de faire différemment que qu'est-ce que les gens habituels font. C'est quand que la toiture est faite, ben ils vont rouvrir l'hypothèque pour faire la toiture. Ouais. Quand ils vont avoir des travaux pour faire la cuisine, ben ils vont rouvrir l'hypothèque.
Fait qu'ils vont s'endetter pour s'appauvrir au lieu de s'endetter pour s'enrichir.
Exact.
Puis ça, c'est vraiment la base. Puis tu disais tantôt, Kevin, au niveau de la gestion de locataires, avant je l'oublie, tu sais, gérer 2-3 locataires alors que tu habites dans ton bloc, il n'y a pas une meilleure manière d'apprendre à gérer le locataire. Ça peut être utile pour tout le reste de plein de choses que tu fais dans ta vie. J'ai pas d'acheter un 24 logements par temps.
Puis l'autre chose aussi qui est importante, c'est que tu parles aussi de la mise de fonds. C'est pas nécessaire d'avoir 50 000 piastres dans notre compte de banque. Tu sais, un duplex, on parle de 5 % de mise de fonds. Ouais. Triplex, quadruplex, on parle de 10 % de mise de fonds. Ouais. Par contre, l'avantage que tu as avec un triplex et un quadruplex, souvent, c'est que tu vas rajouter un ou deux logements de plus qui va faire en sorte que ça va augmenter aussi ta capacité d'achat.
Exact.
Qui va pouvoir aussi amortir ton risque financier. Fait qu'au lieu d'avoir juste un locataire qui paye pas et d'être coincé avec ton duplex, mais ben, s'il y en a un qui paye pas, mais il y en a toujours un aussi qui va pallier à ce manque d'argent-là. Fait que ça, c'est quand même important.
C'est pour ça que je parle surtout des triplex puis des quadruplex. Je préfère que tu aies un ratio positif de locataire versus toi. Donc, un duplex, c'est à 1 pour 1. Fait que un triplex, c'est à 1 pour 2, un quadruplex, 1 pour 3. Là, tu commences à embarquer dans un vrai actif. Vraiment quelque chose qui va améliorer ton sort financier. Puis ça, c'est hyper important. Puis ta mise de fonds, t'es même pas obligé de l'avoir. Le programme de rap avec les REER, que t'aies des REER ou non, tu peux rapper. Puis ça peut te fournir ta mise de fonds. Là.
Exact. Puis tu sais, un duplex à 300 000, puis un triplex à 300 000, tu sais, on va avoir 30 000 de mise de fonds au lieu de 15 000 de mise de fonds. Mais des fois, tu es peut-être juste mieux de reporter ton projet d'un an, d'avoir ton 30 000,
exact.
Mais d'avoir un retour vraiment intéressant. C'est fait que ça, c'est quand même important. Puis, tu sais, tu parles, tu es vraiment investi dans l'immobilier, tu as des réseaux de contacts assez extraordinaires au niveau de l'investissement immobilier ici au Québec, au Canada, puis même aux États-Unis, mais tu n'es pas en train de dire, écoutez, il faut que tout le monde ait un parc immobilier sans logement. Tu es en train de dire, écoute, achète-toi un triplex, un quadruplex, reste là-dedans 5 ans, rachète-toi-en un autre, peut-être pas que tu vas rester encore 5 ans dans ton deuxième, peut-être juste 3 ans, mais tu sais, sur tes prochains 8 ans, de 25 à 33 ans, tu vas avoir bâti un actif, puis tu vas pouvoir, après ça, avoir une certaine liberté financière.
C'est un tremplin, dans le fond. Moi, ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est véhiculer dans le monde des affaires, mais c'est de se priver présentement de ce que la plupart des gens ont pour connaître ce que la masse n'aura jamais. Finalement,
ouais,
c'est un peu ça, le mindset clair. Derrière ça.
Le mindset, t'as pas le choix. Un moment donné, si tu veux tout de suite, t'auras jamais rien. T'sais, c'est ultimement ça. Puis non, t'as pas besoin d'avoir 100 portes, puis 200 portes, puis 400 portes, puis 10 000 portes. Puis souvent, les gens vont dire, ah, c'est juste de ça que je parle. Mais c'est sûr, parce que je travaille dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Mais honnêtement, pour monsieur, madame, tout le monde, là, pour ma cousine qui habite ici à Lévis, mes deux cousines qui habitent ici à Lévis, là, d'avoir deux triplex ou deux quadruplex ou trois triplex, même juste avoir un triplex ou un quadruplex, en plus d'éventuellement de sa maison, ben ça, avec des petits placements, des REER, avec des CELI, avec des bonnes assurances, ça peut tout changer votre vie de 40 à 80 ans. Parce que, tu sais, à cette heure, tout le monde, on est supposé vivre jusqu'à 80, là. Ben, il faut commencer à y penser, puis c'est juste d'avoir quelques immeubles de plus. Moi, j'aurais pas pourquoi tout le monde n'aurait pas au moins 2-3 propriétés d'investissement.
Puis, tu sais, on parle d'une histoire de 8, 10, 12 ans, puis vous vous retrouvez peut-être avec un actif maintenant, ben oui. Avec une maison, deux blocs, peut-être d'un million, là.
Ben oui, puis c'est qu'environ 5 ans, si le marché va bien, juste le refinancement, la prise de valeur, le refinancement de chaque propriété te permettrait d'acheter une deuxième. Fait que tu sais, t'achètes un triplex, dans 5 ans, il te permet d'en acheter un deuxième. Fait que dans 10 ans, il te permet d'acheter une autre propriété, t'achèteras ta maison, par exemple. Ça, c'est vraiment le meilleur des mondes. Fait que là, dans 10 ans, t'as une maison, t'as deux triplex. Mais dans 5 ans, en fait, là, tes deux triplex sont prêts à refinancer. Tu pourras acheter deux autres triplex. Fait que là, on est rendu en 15 ans, t'es rendu 4 propriétés, plus ta maison, juste parce que tu as fait une décision, ça a été une décision de ne pas tout de suite acheter une maison. Tu n'as rien fait de plus fou. Tu n'as pas dépensé des milliers de dollars en cours sur l'investissement immobilier. Pas que c'est pas une bonne chose, mais tu n'es pas en train de devenir un investisseur immobilier professionnel. Tu n'as pas été obligé d'aller faire une maîtrise en finance à l'université. Tu n'as pas été obligé de te priver extraordinairement. Tu as juste fait une petite décision, tu as pris une petite décision au niveau de ta vie et au niveau de ta santé financière, puis ça peut tout changer le cours de ta vie. Tu peux te ramasser avec une valeur nette de 1 à 5 millions de plus dans 15-20 ans juste à cause de cette décision-là.
Puis je pense que ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que tu peux pas le faire à l'inverse non plus.
Non.
Tu peux pas commencer par la maison puis dire que dans quelques années,
non.
J'accède à la propriété, je verrai comment ça va, puis j'irai vers l'investissement, puis là, tu vas te barrer tes ratios.
Ben oui, tu vas barrer tes ratios d'endettement. Parce que là, tu ne crées pas un actif. Puis en plus, ben, c'est le concept du rendement composé. T'sais. Plus que tu commences à investir jeune, puis tu réinvestis à chaque année, ben là, c'est plus simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais là, c'est rendu 1 fois 1, ça donne 2. 2 fois 1 fois 2, puis là, on continue à multiplier. Puis l'effet multiplicateur de ça fait en sorte que c'est comme ça que tu t'enrichis. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, puis le rendement composé. Quand tu es capable d'avoir ces deux-là ensemble, écoute, effectivement, le plus vite possible, commencer dès maintenant.
Je pense qu'on a vraiment beaucoup de conseils pour des premières acquisitions. On est obligé de terminer notre première chronique. On aurait pu en parler, je pense, encore pendant 50 minutes, c'est plus qu'on parlait. C'est des chroniques qui sont fort pertinentes. Je te remercie, Nicolas, de participer à l'émission La Bulle immobilière, à nous faire des chroniques spécialisées comme ça. Nicolas Ray, qui est PDG de la MREX pour le Real Talk avec La Bulle immobilière. Merci.
CJMD 96.9 Lévis. Pourquoi pas un petit like sur notre page Facebook? Rien que du stock intéressant. Puis souvent, des prix à gagner.
Laurent et les truands.
Salut, Babu, comment est-ce qu'il va?
On fait vraiment de la peau pour le film de Mariana Mathieu.
Ouais? T'aimes pas Mariana?
Fait rire, ouais, ça. Moi, elle a fait me planter l'année passée. J'avais animé, c'était comme mon premier gros show depuis un bout. À Trois-Rivières, on avait fait une affaire de ciné-parc là, avec des humoristes. Ouais. Il met ça, puis elle avait essayé de me planter genre deux, trois fois sur le stage avec moi. J'étais comme, c'est tout ce qui risque.
Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi, dès midi.
Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert, qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants, servis avec une sauce, miel et piri-piri.
Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du Cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevis.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cégeplevis.ca.
Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce? Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
Salut les amis, c'est Anita de cette île et j'ai gagné 1200$ au bingo.
On est à la deuxième saison des chroniques du Real Talk avec Nicolas Ray. Salut Nicolas.
Salut Jeff, comment ça va?
J'ai toujours la chienne de dire talk, ouais. Mais écoute. Mais
non, ça a très bien été, Jeff.
Mais non, c'est real.
Ça va de mieux en mieux.
Entraîné pendant les fêtes.
J'adore ça, comme tu le disais, c'est parfait.
Ça va de mieux en mieux. Je trouve ça le fun que tu aies renouvelé l'expérience avec nous. On a beaucoup de contenu qu'on est capable de tirer. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ces chroniques-là? C'est qu'on parle de l'environnement de l'investisseur immobilier, mais à d'autres niveaux, pas seulement une question de rendement, chiffres, etc., mais aussi de qualité de vie, de savoir comment bien gérer ses immeubles, etc., gérer les ressources humaines autour aussi. Je trouve ça quand même intéressant. Puis on est avec Kevin. Comment ça va, Kevin?
Ça va très bien, toi, Jeff.
Ça va toujours bien. Je te remercie toujours de renouveler les expériences avec...
toujours partant.
Avec nous, puis à la bulle immobilière. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, consultez notre page Internet ou notre page Facebook, plutôt. La bulle immobilière. Sinon, vous pouvez consulter tous les podcasts qui sont disponibles sur jeanfrançoismorin.ca.
Les plaintes, Jeff, c'est par fax. N'oublie pas de le dire.
C'est ou par Padgett.
C'est sûr que ça se rend pas.
C'est le Padgett, effectivement. Écoute, Nicolas, tu amènes des sujets toujours, je ne veux pas dire controversés, mais qui peut amener des discussions. Puis juste avant de rentrer en onde, justement, on en discutait ensemble. Tu parlais de l'acceptation sociale, du déséquilibre pour... de la vie de l'investisseur et entrepreneur versus un athlète ou un médecin.
Ouais.
Puis, à première vue ou à première lecture, on était comme moi, vers où qui veut s'en aller.
C'est quoi ce sujet bizarre?
Ouais, qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? Explique-nous ça.
Je me sentais comme le Yann Halperin. Tu sais, on s'en était déjà parlé dans le passé.
Tu t'approches de lui. Là.
Surtout, vu qu'on est à la radio, moi, j'ai toujours trippé sur les chroniques de Yann Halperin. Je me rappelle pas à quel poste qu'il était, mais écoute, c'est vrai, le seul moment que j'écoutais la radio, je trouvais ça hilarant. Parce que, justement, c'était du real talk, mais il avait pas peur de sortir des sentiers battus puis de dire des choses vraies que peut-être on pense tous, mais qu'on a peur de politiquement incorrect ou on a peur de qu'est-ce que le monde pourrait penser de nous. Mais je trouve que dans la vie, autant comme entrepreneur, comme père de famille, comme conjoint, comme leader également dans ma communauté et dans ma société, c'est important d'être capable d'attaquer des sujets de discussion qui sont peut-être plus difficiles, qu'on a un peu plus peur d'attaquer ou qu'on met en dessous du tapis. Ouais. C'est ça du real talk. Puis pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, c'est important de comprendre que oui, on a une capsule d'immobilier, on parle d'investissement immobilier, comme tu disais Jeff, on parle de chiffres et tout ça, Mais l'investissement immobilier, ultimement, c'est quoi? C'est de l'entrepreneuriat. C'est très humain également. Tu sais, le côté humain est indéniable dans l'investissement immobilier. Tu achètes des blocs appartements, tu gères des logements et donc tu gères des locataires, des partenaires, des associés, des contracteurs, des sous-traitants. C'est pas comme acheter des actions à la bourse, là. Alors, c'est un côté très important. Puis je l'ai amené je trouvais que c'était d'actualité avec le je suis un grand fan de tennis. Dernièrement, il y a eu l'Australian Open, donc le grand chelem au tennis en Australie. Et tu as Novak Djokovic qui
est redevenu premier mondial.
Qui est redevenu premier mondial, un des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis avec Federer puis Nadal. Et également, il y a eu le Super Bowl. Puis le Super Bowl, on a vu Laurent Duvernay-Tardif gagner. Moi, je suivais ça de très proche parce que son agent, Sacha Gavini, qui est un avocat de Montréal, c'est mon avocat personnel qui a tout structuré mes finances personnelles comme entrepreneur, dans le fond. C'est un peu comme mon agent, finalement, la même chose. Et c'est drôle parce que la relation qu'on a, moi et Sacha aussi, c'est la discussion, c'est ça ressemble beaucoup à... Moi, je suis un athlète de haut niveau, un entrepreneur, puis Sacha, c'est mon agent, un peu comme avec Laurent Duvernay-Tardif. Ça m'a amené sur une réflexion. Tu sais, c'est une réflexion de comment ça se fait qu'on parle constamment d'équilibre vie-famille ou d'équilibre entre le travail puis le reste de notre vie. On est toujours en train de casser les oreilles des entrepreneurs par rapport à ça. Tu sais, on est constamment... Il y a des milliers d'articles qui ont été écrits là-dessus. Il y a beaucoup de podcasts qui ont traité de ça. Comme vous savez, avec le Collège d'Amrex, je passe beaucoup de temps à enseigner à des investisseurs immobiliers, à être dans des soupers, à être dans des activités de réseautage. C'est un sujet qui est toujours sur les lèvres. Comment réussir en ayant une conjointe ou un conjoint, dépendamment, en ayant des enfants, en ayant des amis, en ayant de la famille, comment réussir comme entrepreneur, comme immopreneur, comme investisseur immobilier, mais pas délaisser ce côté-là de sa vie? Puis, comment aussi ne pas vivre avec cette pression continuelle? Puis, ma réflexion, c'était juste, je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les entrepreneurs et les investisseurs par rapport à leur équilibre vie-famille, mais comment ça se fait que pour les athlètes de haut niveau ou les médecins, j'ai un chum radiologiste d'intervention, jamais qu'on va remettre en question leur équilibre vie-famille. As-tu déjà pensé que, par exemple, la conjointe de Roger Federer, un des meilleurs joueurs de tennis au monde, lui dit « Ah là, Roger, tu peux pas, mon beau Roger de Lévis, là. »
Tu pourras pas partir une semaine, là, pour...
Tu partiras pas encore un autre maudit tournoi, là. C'est pas vrai, là. T'es tout le temps parti.
Faut les vacciner.
Tu vois jamais tes enfants, ça n'a pas de bon sens, faut qu'on jase, tu sais. Je veux dire, c'est Roger Federer. C'est sûr que c'est ça qu'il fait. C'est même chose pour le radiologiste d'intervention ou le chirurgien. Il n'y a personne qui parle de son équilibre de famille. Parce que c'est comme socialement accepté qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'équilibre. Et le concept d'équilibre, cette notion-là, c'est un drôle de concept. D'un, c'est un concept très occidental. En Asie, on parle davantage de harmonie. Donc, l'harmonie, c'est quelque chose qui est plus... tu peux être en déséquilibre pendant des longs moments de ta vie ou pendant des moments spécifiques. Exemple, tu peux travailler comme un déchaîné, puis après ça, être en vacances ou pas travailler ou peu importe, mais il y a une certaine harmonie. Tu sais, tu te reprends quelque part. Et c'est juste que je me posais la question, comment ça se fait qu'il y a une acceptation sociale, il n'y a aucune pression, aucune culpabilité qui est créée chez, par exemple, les athlètes de haut niveau. Tu sais, Laurent Duvernay-Tardif ou Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs de Kansas City. Il n'y a personne qui dit « Ah ouais, là, tu sais, il s'entraîne trop, il ne voit jamais sa femme ou il ne voit jamais ses enfants. » Puis écoute, la discussion pourrait être la même, tu sais, si on renverse les rôles. Là, une joueuse de tennis, là, Sophia Kenin, qui a gagné l'Open d'Australie, elle, quand elle va avoir un conjoint, est-ce que son conjoint va être comme « Ben là, Sophia, t'es toujours partie, t'es jamais présente dans ma vie, t'es jamais présente dans la vie de nos enfants, l'équilibre des familles est où, tu sais? » C'est quand même c'est une réflexion à avoir, je trouve. Je dis pas que j'ai la réponse, je dis pas que c'est une mauvaise manière de faire, mais je trouve ça curieux que ça soit aussi socialement accepté et même pas une question, même pas une discussion chez l'athlète au niveau ou chez, par exemple, le médecin ou le soldat, mais pour l'entraîneur, pour l'entrepreneur ou l'investisseur immobilier, c'est mal vu. T'es un père absent, t'es une mère absente, tu veux juste faire de l'argent, tu veux juste travailler... Mais alors qu'en réalité, ce que tu fais, c'est que tu essaies de te dépasser et d'être le meilleur que tu peux dans ta ligne. T'sais.
Peut-être tu mis le doigt sur une partie de la réponse, dans le sens qu'est-ce que tu penses que c'est parce que le rêve ou la finalité est plus facilement reconnue pour un sportif ou est plus facilement, pas glorifié, mais c'est plus évident pour son entourage de dire « OK, tu veux te rendre là, je vois c'est quoi, puis je suis capable de te suivre » versus un entrepreneur. Ben, tu fais certains investissements, je vais te suivre, mais quel est vraiment ton objectif final, puis est-ce que tu pourrais pas de temps en temps... c'est peut-être plus facile d'être variable de ce côté-là, je sais pas.
Puis un des points que je trouve qui est intéressant vers où que tu l'amenais, c'était beaucoup plus dans la perspective future des résultats.
Ouais.
Tu sais, si tu es un athlète de haut niveau ou tu joues au hockey, ton but c'est d'être dans la Ligue nationale. Pour arriver dans la Ligue nationale, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Puis les sacrifices vont être au niveau temps, au niveau famille, au niveau personnel aussi, parce que tu vas mettre aussi ta vie personnelle de côté avec des amis, etc., pour te concentrer à atteindre les objectifs. Par contre, en étant entrepreneur, la vision de où ce qu'on veut aller ou la perspective long terme, peut-être qu'elle est moins connue ou, tu sais, moins évidente pour les personnes qui nous entourent.
Elle est comme moins tangible parce que, tu sais, en fait, il y a peut-être une différence puis c'est peut-être là qu'on met le doigt sur le bobo. Mais, tu sais, l'athlète, comme tu dis, Jeff, veut se rendre à la Ligue nationale, OK? Mais après ça, une fois qu'il est dans la Ligue nationale, ben souvent, il veut être le meilleur. Il veut gagner la Coupe Stanley. Je suis convaincu que la femme de Carey Price, elle dit pas « Ah, tu t'en vas encore t'entraîner. » Voyons, c'est Carey Price. C'est sûr qu'il s'en va s'entraîner. Le gars, il veut être le meilleur gardien au monde. C'est normal. Ça serait anormal qu'il arrête de le faire. Puis être sa femme, je serais inquiet le jour qu'il arrête de le faire. T'sais. Puis c'est peut-être là que pour le conjoint ou la conjointe, peu importe la situation, ou pour les amis ou l'entourage, c'est moins tangible de comprendre que l'entrepreneur ou l'investisseur est peut-être il essaie de se rendre à l'équivalent de la Ligue nationale pour lui ou elle, ou peut-être qu'il l'est déjà. T'sais. Moi, je me considère comme entrepreneur après, ça fait 13 ans, je suis à ma 14e année d'affaires. Je vais avoir 36 ans cet été, j'ai commencé en affaires à l'âge de 22 ans, j'ai eu d'immenses succès, d'immenses échecs, et ultimement, j'ai eu plus de succès que d'échecs. Mais je me considère dans la Ligue nationale des entrepreneurs. Tu sais, je veux dire, je suis dans le top 1% au niveau de
du club élite.
Du club élite, de peu importe les métriques que tu veux utiliser. Et pourtant, je dois encore me justifier de ce déséquilibre-là puis de cet effort-là que je donne. Mais je donne pas un plus grand effort que tout joueur de hockey de la Ligue nationale ou un joueur de tennis professionnel ou un neurochirurgien. Tu sais. Fait qu'il y a peut-être ce concept-là de le côté intangible. Il y a aussi le concept qu'on glorifie les médecins, on glorifie les soldats aussi. Peut-être moins au Canada qu'aux États-Unis, hein, parce que j'ai un background très américain. Fait que moi, je glorifie énormément les soldats. Mais également, on glorifie les athlètes de haut niveau. L'entrepreneur n'a jamais vraiment été glorifié. Là. C'est assez récent.
Ouais, c'est récent. Mais
c'est un mouvement récent. On va dire peut-être dans les 5-10 dernières années là, que ça commence à être cool d'être entrepreneur, mais on est loin d'être rendu là. Fait qu'effectivement, il y a le concept de ce qui s'en vient ou de ce qui pourrait venir, mais je veux dire, même moi, je me fais dire souvent par des gens, mais comment tu fais? Ben, tu demandes tout ça à Roger Federer, comment il fait? Puis, je dis pas je suis le meilleur entrepreneur au monde. Mais j'essaie de l'aide. Mais est-ce que tu demandes à un gars dans la Ligue nationale ou dans le tour de l'ATP au tennis ou dans la NFL, comment tu fais? Hey, comment tu fais pour t'entraîner autant puis voyager autant? Ça doit être difficile. Mais il n'y a personne qui oserait demander ça à un joueur ou un athlète professionnel. Alors, puis, pourquoi qu'on demande à l'entrepreneur?
Quand je retranspose ça à ma vie personnelle, parce qu'on vit tout ça.
Ben oui, c'est clair.
Puis, c'est,
tout... c'est un sujet proche du cœur pour nous. Là.
Ben oui, tu sais, moi, je suis un gars qui est très rigoureux dans mon travail. Puis les gens qui vont réussir à avoir ou atteindre des hauts niveaux, souvent, c'est les gens qui vont avoir une meilleure rigueur puis une meilleure discipline sur leur gestion d'agenda. Fait que, tu sais, ils se mettent des périodes de travail pour faire un tel type de travail. Ils vont arriver à leurs résultats parce que c'est comme s'ils étaient en entraînement continu dans leur business. Par contre, les gens qui nous voient à l'externe, ben, voient pas nécessairement que c'est un effort pour arriver à un résultat qui est concret, comme par exemple la Ligue nationale.
Ben oui, t'es juste courtier immobilier, Jeff, voyons.
Ouais.
Hein, t'es juste un courtier immobilier, t'es juste un vendeur de maison, puis tu veux juste faire plus de cash. C'est ça la perception qu'on a de toi.
Oui, c'est un peu ça, entrepreneur aussi.
C'est ça, la société a cette perception-là.
La perception de ma blonde dans cette optique-là aussi, c'est de dire, tu sais, Jeff, tu pourrais travailler un peu moins, passer plus de temps avec la famille, faire un peu moins d'argent, mais d'avoir un plus bel équilibre, justement, parce que c'est un peu le clash qu'on a. Mais c'est pas une question de faire plus d'argent, c'est une question de dépassement.
Ouais, puis, c'est moi, de se réaliser là-dedans.
Exact. Puis moi, c'est ce que je recherche dans le courtage immobilier, c'est pouvoir me réaliser,
ouais.
puis d'augmenter les standards de l'industrie, puis faire en sorte qu'on puisse être encore meilleur sur ce qu'on avait déjà mis en place.
Puis tu veux contrôler ton outcome, ultimement. Puis ce qui est compliqué, tu sais, pour quelqu'un, écoute, moi, je viens du domaine du sport de haut niveau, là, on s'entend, je suis allé aux Olympiques 3 fois comme chef de performance humaine. J'ai été athlète professionnel. Fait que c'est sûr que c'est facile pour moi de transposer, puis de regarder l'entrepreneur, puis de comprendre, hey, t'as peu, l'entrepreneur, là, c'est un athlète de haut niveau. J'ai fait mon postgrade à l'Université d'Harvard pendant un été de temps en médecine préventive, spécialisé dans la psychologie de la santé auprès des PDG des 500 plus grandes compagnies américaines cotées à la bourse. Parce que le mindset là-bas, c'est que le PDG d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise, c'est un olympien. Il devrait avoir un plan d'entraînement, un plan alimentaire, un plan d'entraînement psychologique. C'est juste normal. Mais comme société, on n'est pas rendu là. Puis encore moins au Québec. Là. Au Québec, on n'est vraiment pas rendu là. Tu sais, au Québec, là, on est les champions de tout le monde prend les vacances en même temps dans les vacances de construction, puis à Noël. Puis le samedi dimanche, là, je veux dire, à moins que tu travailles dans un magasin, là, tu travailles pas le samedi dimanche. Va-t'en aux États-Unis, là, c'est beaucoup plus atypique. Il n'y a pas autant de standardisation de l'horaire de on travaille tous 35 heures du lundi au vendredi, puis on prend exactement tous les mêmes 4 semaines de vacances dans l'année. Fait que ça aussi qui joue dans notre mentalité. Mais ça revient au fait que toi, Jeff, moi je le comprends comme ancien athlète de haut niveau. Et comme entraîneur d'athlète de haut niveau, je comprends qu'on ne peut pas te demander d'arrêter un petit peu. Ça n'existe pas. Tu peux pas demander à Carey Price, bon, mais là, tu sais, imagine, je me transpose, je suis la femme de Carey Price l'été, là, puis je dis, tu sais, Carey, ça va faire 12 ans que tu es dans la ligue, je ne sais pas combien de temps ça fait dans la ligue, là, sûrement. Là. Tu as gagné un Vézina, je veux dire, tu es reconnu comme étant le meilleur gardien au monde. Es-tu vraiment obligé de t'entraîner 5-6 jours semaine l'été? T'sais, on pourrait-tu enfin en profiter? Nos enfants sont petits. Je pense qu'il y a 2 jeunes enfants ou un jeune enfant. Lui. Est-ce qu'on pourrait pas prendre ça un peu plus mollo cet été? T'sais, je veux dire, tu seras pas 20 fois moins bon si tu t'entraînes pas exactement le 5-6 fois comme toutes les autres, puis comme on te dit de t'entraîner. Non, ça n'existe pas, cette réponse-là. Il peut pas faire ça, parce que s'il fait ça, c'est plus Carey Price. Mais si toi, t'arrêtes, Jeff, là, moi, je sais que c'est pas une question d'argent. Je te connais assez bien, on s'est parlé assez souvent, là. T'es pas un gars qui est drivé par ça. Oui, on en veut tous un peu plus. C'est toujours le fun d'avoir un peu plus d'argent. Je veux dire, tant que t'es pas milliardaire, on peut toujours faire de quoi de plus avec plus d'argent. Ouais. C'est chill, c'est cool, ça donne des belles expériences, ça donne des belles libertés, tout ça. Mais c'est pas ça qui drive l'entrepreneur. La plupart des entrepreneurs...
C'est un
accomplissement. T'sais, oui, il y a l'argent au début. Là, t'sais, le premier 70 à 140 000 dans la vie, c'est le fun, tu veux bien gagner ta vie, mais outre ça, là, c'est certainement pas ça. C'est prouvé dans plusieurs études que c'est pas ça qui drive les entrepreneurs.
Puis demande à n'importe quel athlète de n'importe quel niveau.
Entraîne-toi un peu moins fort.
Ouais, ou est-ce que tu es content de ta deuxième place?
Ouais, ben non.
Il n'y a pas personne qui est content de la deuxième place.
C'est clair.
Puis, tu sais, on vivait ça, nous, au badminton, la troisième place. Il était supposé avoir un match pour définir c'était qui le troisième avec les 2 dernières équipes de la demi-finale.
T'arrives de reculons.
Puis c'était un pile ou face. Puis il splittait la bourse 50-50. Ouais. Là. Fait qu'il faisait pas la game. Là. Il n'y avait pas d'intérêt à vouloir faire la game parce qu'il était pas en première position.
Où t'es-tu heureux d'être la deuxième place ou la troisième place de toi? Tu sais, il y a ça aussi. Là. Ça, c'est difficile pour les gens qui n'ont pas de mentalité de performance. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui a une mentalité de performance. Puis on peut pas demander ça à tous non plus. Là. Je pense
puis c'est inné aussi.
On
là.
Aurait une drôle de société. Ouais. C'est inné, c'est entraîné également. Il y a un côté environnemental derrière ça. T'sais, on est à Lévis ici. Moi, je suis allé au sport études à Lévis dans ma jeunesse avant de partir jouer au hockey dans l'Ouest canadien. T'sais, c'est entraîné dès un jeune âge, je pense, dépendamment de ce qu'on a vécu. Moi, ça a été le sport de haut niveau. Mais tu veux pas être le deuxième de toi. T'sais, si tu as la capacité d'être Carey Price, là, tu n'as pas envie de vivre avec le fait que finalement, tu es Keith Kincaid. T'sais, tu comprends?
Si tu as solidement rétrogradé.
Si tu as la capacité d'être Patrick Roy, là, tu veux pas être Jocelyn Thibault.
Ouais,
pour les gens de Québec, là, tu veux juste pas l'être. Voyons, tu veux pas vivre comme ça. Mais en tout cas, si tu veux vivre comme ça, écoute, c'est chill pour toi. Je te juge vraiment pas. Mais moi, comme entrepreneur, dans le plus profond de moi-même,
je vais aller à ton plein potentiel.
Je peux pas vivre comme ça. Là.
Puis
je vais être encore plus absent, en fait. Je vais être l'ombre de moi-même. je ne serai. Tu veux parler d'absent, là? Tu veux-tu voir un père absent et un conjoint absent, là?
Qui
empêche-moi de me réaliser puis d'aller au bout de ce que je suis capable de faire, que je prouve à chaque jour. Moi, je le prouve à chaque jour que je suis capable de le faire. Là. À chaque jour, je le prouve que je suis comme le Patrick Roy de moi-même. C'est peut-être un mauvais exemple. Je défonce pas les portes, là. Mettons le Carey Price de moi-même, là. Tu sais, à chaque jour, je le prouve. Fait que non, je peux pas accepter de dire « Ah, ben oui, mais je vais plus voir mes enfants ou ma conjointe, puis ben, je serai plus Carey Price, je vais être Keith Kincaid. » Puis ça, c'est l'exemple que je veux donner à mes... J'ai pas envie de donner ça comme exemple à mes enfants.
Pis ça se transpose d'un bord à l'autre. Souvent, quand tu te réalises bien aussi au niveau professionnel, tu te sens un peu mieux, je pense, dans ta peau aussi au niveau pis, personnel, au niveau familial. Ça va de l'autre bord aussi. Fait que c'est pour ça que c'est une recherche d'équilibre. Mm. Tu sais, c'est la recherche d'équilibre dans le sens que c'est pas juste un petit point de friction. Tu sais, je pense que c'est bien quand même d'avoir la réflexion.
Ouais.
Mais moi, je t'amènerais à savoir qu'est-ce que tu penses, mettons, d'entrepreneurs connus comme moi, j'ai déjà lu François Lambert qui, lui, amenait totalement l'autre direction. C'est-à-dire, lui, il disait un équilibre vie-travail, c'est impossible. C'est tout simplement impossible pour un entrepreneur qui veut se réaliser.
Totalement d'accord avec ça.
Fait que c'est à contre-courant.
Pour un entrepreneur qui veut se réaliser, pour un entrepreneur qui veut performer, comme l'athlète de haut niveau, comme le chirurgien.
Il va falloir qu'il fasse des sacrifices à quelque part.
Comme le chirurgien, ça n'existe pas. L'équilibre vie-famille tel que le Québec le définit, là, ça n'existe pas. Là. C'est un rêve utopique de gens qui ne comprennent pas c'est quoi la réalité derrière ça. T'sais, on va-tu dire, on va dire à un chirurgien, là, un neurochirurgien, que les gens, là, la vie en dépend. Là. Bah, toi, là, regarde, là, t'es pas obligé d'en faire autant de chirurgie cette semaine. Là. Tu pourrais juste travailler 35 heures, puis ça va être chill. Là. Celui-là, il est facile à comprendre parce qu'on sait qu'il va y avoir du monde qui va mourir. Là, tu vas dire. Ben oui, mais c'est vrai. Oui. Mais là, tu vas dire, ouais, mais toi, l'entrepreneur, il n'y a personne qui va mourir. Là, je veux dire, ça changera rien. C'est peut-être là le problème. C'est que c'est pas vrai que ça changera rien. D'un point de vue macro, ça va changer de quoi? On vit dans une société capitaliste, OK? On est au Québec, au Canada, on est peut-être un peu plus de gauche, mettons, qu'aux États-Unis, mais on vit dans une société de capitalisme. Le capitaliste, le système économique, et le moteur, c'est quoi? C'est l'entrepreneur, c'est l'investisseur. S'il n'y a plus d'entrepreneur, il n'y a plus d'investisseur, il n'y a plus de système. Donc, on s'en va au goulag avec les... Avec les soviets, puis ça va être le système, ça va être le régiment socialiste, tu sais. Fait que c'est pas vrai. Oui, on sauve pas de vie, mais c'est pas vrai qu'on crée, beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Maintenant, c'est une valeur qui est peut-être plus, on va dire, mercantile, mais en même temps, ça l'est-tu vraiment? Je veux dire, on a toutes des belles vies parce que l'économie roule. Si l'économie roule pas, on n'aura pas des belles vies. T'sais, si on est pour aller dans les extrêmes.
Ouais.
Fait que, tu sais, je trouve que c'est encore là un problème de mentalité. Je trouve que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler pour... Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs puis d'investisseurs immobiliers, probablement des gens qui écoutent en ce moment, qui se promènent en char le samedi après-midi, là. C'est leur semi-day off où ils viennent de tomber en congé parce qu'ils ont travaillé 6 jours cette semaine, ils sont courtiers immobiliers. Puis, ils se sentent coupables. Ça, c'est tough, vivre avec cette culpabilité-là, comme entrepreneur, de sentir coupable parce qu'on dit que tu es un père ou une mère absente, parce qu'on dit que tu ne
seras pas là ce soir.
Tu seras pas là ce soir. Ah, ben oui, c'est sûr que j'aimerais pas savoir mes enfants ce soir. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Roger Federer, il y a probablement bien des soirs où je sais pas s'il y a des enfants, au niveau de quel autre joueur de tennis dans le top 10 mondial, je suis convaincu qu'il y en a là-dedans qui ont des enfants, puis qui ont bien envie de voir leurs enfants. Mais écoute, quand il faut qu'il y ait au Australian Open pendant 2 semaines, puis 1 semaine avant pour s'entraîner, puis 2 semaines durant la compétition, mais c'est ça qu'il est. Ça fait partie de... Pourquoi on essaie constamment de compartimentaliser puis de dire « Ouais, mais c'est un ou l'autre. » C'est pas un ou l'autre. L'exemple que tes enfants reçoivent de un parent ou les deux parents comme entrepreneurs, ben c'est important d'avoir l'exemple de parents qui se dépassent, qui vont au maximum 2. Puis je pense que ça, c'est bon pour la société puis c'est bon pour tes enfants. Maintenant, il faut qu'il y ait une acceptation. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une acceptation quelque part. Puis dans tout déséquilibre, ben, il faut qu'il y ait un déséquilibre probablement équivalent de l'autre bord, sinon là, on a un problème. Puis c'est là que, par exemple, ben, l'entrepreneur qui mettons l'homme qui est entrepreneur ou la femme qui est entrepreneur, ben, il a besoin d'aide à quelque part. T'sais, surtout s'il y a des enfants en place.
Ah oui.
Ça, je pense, c'est une toute autre discussion. Là.
Ben parce que là, tu parles de l'entourage, tu parles de l'environnement, de la société, mais ultimement, ouais. je pense que ça revient surtout au partenaire. T'sais, la ouais. clé, c'est la personne qui est avec toi ouais. dans le day-to-day.
Ouais.
C'est comment tu l'as amené, comment tu n'as jasé avec cette personne-là, c'est personne... qu'est-ce qu'elle s'attend de toi, qu'est-ce
qu'elle est capable de donner. Si la personne est prête d'accepter...
C'est ça.
Que,
parce que moi, personnellement, la société, ce qu'elle voit de moi, honnêtement, je m'en fous un peu.
Ouais.
Là.
Ouais.
Ce que ma blonde pense de moi, là, ça pèse dans la balance, mais, parce qu'on est capable de faire ensemble.
Mais ça reste que ta blonde est quand même affectée par la société. La,
oh oui,
la mienne aussi, la tienne aussi. Il y a des femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Je suis convaincu que eux autres, c'est vraiment encore pire, là, parce que c'est comme moins socialement accepté depuis longtemps que l'homme. Fait que eux autres, ça doit être encore pire. Là. Ça doit être encore moins accepté. Là. Ça doit être encore plus
agréable. Surtout quand viennent les enfants. Puis,
ben une des choses que moi, j'ai transposées dans mon couple pour faire accepter le déséquilibre, ben je me suis fait un perfect week.
Ouais.
Puis voici mon horaire pour la semaine. Voici mon temps famille qui est prévu à mon agenda. Qu'à 90% du temps, je m'organise pour toujours être disponible pour la famille, jamais mettre un rendez-vous qui va venir à l'encontre de notre rendez-vous famille.
Ouais.
Mais tu sais, il y a certains moments que malheureusement, de par la période, de par une situation particulière, qu'on n'aura pas le choix d'empiéter sur cette partie-là, mais c'est important de le respecter puis de le revenir, le redonner au temps famille aussi, puis de pouvoir l'occuper. Mais moi, pour diminuer le fight au niveau de l'horaire, au niveau de la présence, au niveau des certains sacrifices que moi, j'ai le goût de faire pour m'accomplir comme personne, ben, le fait d'avoir fait un perfect week, de l'avoir mis sur le frigidaire, puis de dire, ben écoute, voici vers où que je m'en vais à toutes les semaines du 1er janvier au 30 juin. Puis au 30 juin, on va se rasseoir ensemble pour voir s'il n'y a pas des ajustements à faire. Mais on le fait sur une période de 6 mois. Puis, on essaie de le maintenir à 100%. Puis, c'est toujours difficile de maintenir toujours une rigueur dans le calendrier. Mais, tu sais, pour nous, puis pour moi, le mercredi, c'est sacré. Je pars, je vais chercher les gars. On va souper en famille, on fait des jeux ensemble, etc. Le vendredi, je me prends pas de rendez-vous, à part si c'est des situations extrêmes. Tu sais, le dimanche, je commence pas à travailler avant 11 heures pour être sûr de pouvoir déjeuner avec les gars, de pouvoir chiller avec eux autres le matin. Puis ça fait en sorte que je fais d'autres sacrifices ailleurs, mais au moins sur le temps famille, je suis à 100% dans ce temps-là. Fait que mon but à moi, c'est de compartimenter mon temps pour être à 100% efficace dans chacune des plages horaires disponibles. Mais quand j'étais avec la famille, j'étais à 100% avec eux autres, non pas à répondre à des demandes sur mon cellulaire. Pas toujours évident, là.
Ouais, c'est
pas
ça,
évident.
Toujours évident.
Mais effectivement, c'est le point important, je pense, que tu as mis le doigt. Tu sais, on ne réglera pas la question aujourd'hui.
Non,
c'est
non, non, non.
Je pense que ça pourrait être une discussion...
C'est une discussion d'une heure, là.
D'un genre de podcast à la Joe Rogan avec 3 personnes pendant 3 heures de temps, là.
Ouais.
Tu sais... je serais curieux d'entendre des gens justement comme un Elon Musk. Ça serait cool comme discussion d'entendre ces gens-là, eux, comment ils voient, tu sais. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus, tu sais, la planification avec et la communication. Je pense que la planification amène la communication de un. Mais ça reste qu'il faut qu'il y ait une acceptation à quelque part. Puis c'est souvent cette acceptation-là qui est très difficile parce que ça va à l'encontre du conditionnement social qu'on a tous. Nos conjointes, on a tous ce conditionnement social-là que, hey, tu sais, je suis convaincu que ce que tu as dit il y a 2 minutes, là, hey, je suis sûr qu'il y a plein de monde là, en ce moment qui écoute, ils ont comme fait.
On tombe en bas de leur chaise.
Dimanche. Ah, tu travailles le dimanche. Ah.
Jour du Seigneur,
bien. Ah, écoute.
T'sais, même moi, là, qui travaille généralement 6 jours semaine, tu sais, souvent le samedi, même moi, j'ai eu un petit frissonnement pour toi, parce que même moi, je travaille pas le dimanche. Ouais. Généralement, je suis pas capable d'éliminer de travailler le vendredi et samedi, parce que souvent, je suis à l'extérieur, on a des cours, on a des retraites et ces choses-là, des conférences, c'est très difficile pour moi. Puis déjà, ce concept-là, c'est une grande partie de friction, de dire on n'a pas une vraie fin de semaine.
T'sais, complète, en tout temps.
En ce moment, là, ça fait depuis le début, depuis le retour des vacances de Noël, je pense que ça va être 4 fins de semaine de suite que je pas là le samedi, je suis juste là le dimanche, puis même il y a des dimanches, je suis arrivé comme juste à midi. Là. Fait que, tu sais, c'est. Même moi-même, en dedans de moi, subconsciemment, je me dis, tu travailles le dimanche.
Ouais,
fait que, imagine le monde qui sont pas entrepreneurs.
Ouais.
C'est dur pour. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est pas dur pour eux, puis que aujourd'hui, le but de la discussion, c'est pas de bâcher le monde qui sont pas entrepreneurs ou les conjoints.
Qui ont des horaires réguliers, etc.
C'est ça.
C'est pas ça le point.
Je pense que c'est important d'amener la discussion à un niveau où qu'on n'a pas peur d'en parler, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à trouver peut-être des solutions.
Puis tu sais, ça n'a pas toujours tout réglé, le perfect week.
Non.
Par contre, ça vient faciliter les discussions. Écoute, on avait planifié ça, on a dit qu'on s'en allait vers là. Les sacrifices que moi, j'étais prêt à faire, c'était ceux-là, qui fait en sorte que je suis capable d'être à la maison 4 soirs semaine, qui est quand même pas mauvais comme courtier immobilier très actif dans le milieu.
Mais même toi, ça te met une coupure. Je suis sûr que toi, ça t'aide, puis ça te met une coupure. Parce que, je veux dire, tu disais tantôt avec ton téléphone, toi, si tu te mets pas cette discipline-là, tu vas te faire avaler toujours par tes tâches, puis tes responsabilités, puis tes défis. Fait que si tu te mets pas cette coupure-là, tu sais, moi, des fois, j'ai cette réflexion-là aussi de dire, là, je suis avec les enfants, mais je suis vraiment 100% ma tête avec les enfants. Tu sais, ça, c'est une autre chose. Fait que quand on se réalise, puis qu'on est capable de soit se mettre des plages ou d'arriver à ses objectifs en termes professionnels, je pense que c'est plus facile après ça, quand on prend du temps familial, puis, d'avoir toute sa tête dans le moment présent.
C'est clair. Puis, mais aussi, je pense que comme entrepreneur, une discussion comme qu'on a aujourd'hui doit nous amener aussi à être fier. Puis je pense que ça va passer par la fierté de dire, mais je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que j'accomplis. Je comprends que je suis pas là autant. Peut-être que ce que la société juge normal ici au Québec. Mais je suis fier. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est quoi, tu te définis juste par ta job, dans le fond, finalement? Mais d'un, c'est pas juste ma job, là. C'est mon entreprise.
C'est notre réseau. C'est
valeur, moi, Inc.
Puis non, je me considère...
T'as aussi toutes les familles qui travaillent avec toi, que tu as des salaires avec eux, etc.
Puis je me considère pas séparé de moi comme... Tu sais, Nicolas, le père de famille, ou le conjoint, ou l'ami, ou le fils, il se constate pas séparé de Nicolas, le PDG, puis l'entrepreneur, puis l'investisseur immobilier. Là. Je veux dire, c'est la même personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en va dire, encore une fois, je prends l'exemple de Roger Federer ou Sidney Crosby? Ben, tu te définis juste par ta carrière, Sidney Crosby. C'est quoi cette question-là? Ben non, c'est Sidney Crosby. Je veux dire, il n'y a personne qui va lui demander de séparer son identité. Alors, pourquoi que nous, on serait obligé de le faire? Je pense que c'est pas la manière d'avancer la discussion. C'est pas la manière d'améliorer le sort pour tous, que ce soit l'entrepreneur ou que ce soit le système de support qui est autour de lui ou elle, que ce soit conjoint, conjointe, enfant, parent, ami et tout ça.
Mais c'est clairement une discussion d'actualité. Puis justement, tu le disais avant qu'on soit en onde, mais avec la meute, la formation qu'on a faite, c'était probablement dans les discussions les plus fortes.
C'est
celle-là qui résonnait le plus parce que tous les autres enjeux, comment avoir un prêt privé, comment arriver à financer la mise de fonds,
ça devient secondaire.
C'est le vrai moteur, comment c'est en arrière de ça. Là.
Oui, parce que comment tu fais pour réussir tes investissements immobiliers? Tu sais, toi, par exemple, tu es entrepreneur général. Comment tu fais pour réussir tes investissements immobiliers? Tu sais, Gary Vaynerchuk parle souvent là, de... Ben, même, tu n'es pas obligé de lâcher ta job pour te lancer en affaires, mais il parle du genre de 8 heures le soir à 2 heures du matin. Mettons, si t'es pas
ton deuxième
comme
chiffre,
toi, ton deuxième chiffre. Mais comment tu fais pour avoir ça quand t'as une conjointe puis des enfants ou quand t'as un conjoint puis des enfants? C'est un défi. Ça devient très difficile. Là. C'est bien beau dans une vidéo YouTube là, où c'est beau quand t'as 22 ans puis t'as personne
à l'entour de toi. Ou à charge,
mais quand t'es un adulte, puis malheureusement, c'est parce que la carrière d'entrepreneur vient à maturité. Tu sais, tu rentres dans la Ligue nationale dans la trentaine puis dans la quarantaine, contrairement aux joueurs de hockey, lui, il rentre à 18 à 22 ans. Nous, l'entrepreneur, on rentre dans la Ligue nationale là,
quand on fait notre
vers famille, 28 à 46, tu sais, généralement, quand on est rendu qu'une femme ou un conjoint avec des enfants. Tu sais, fait que c'est là aussi que ça peut créer un certain déséquilibre.
Écoute, c'est une conversation qu'on pourra faire une partie 2, partie 3, puis qu'on pourra en parler à plusieurs égards. Comment qu'on fait pour te rejoindre ou si jamais on veut parler de notre déséquilibre?
Quelle ligne d'écoute?
J'ouvre un bureau de consultation. Écoute, je suis très facile à trouver sur LinkedIn et Facebook. Simplement taper mon nom, Nicolas Ray, il n'y en a pas deux. Au Québec ni ailleurs en Amérique du Nord.
T'as pas trouvé.
Et également la MREX, M-R-E-X. Site internet, LinkedIn, Facebook. Si tu veux investir en immobilier, on a un paquet d'informations, puis de cours, puis d'ateliers pour t'aider à pas te planter, puis à créer de la valeur.
Nicolas Henry, PDG de la MREX, merci beaucoup. Passez une belle journée. Bye-bye.
Merci.
CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le... Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn, fromagerie Victoria,
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Snackdown, ah ouais, parle-là. À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins. Des grignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid.
C'est dedans la maison, là!
Vos tripes bouffe ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vécurent heureux et la bed and plein.
Snackdown, ah ouais, parle-là!
Marcus et Alex, les deux snooze.
COVID-19, un vaccin moins efficace pour les personnes obèses.
Ouais, là, ils ont juste à en mettre plus dans la seringue.
C'est... Ça finit là.
Moi, de ma faute, c'est ma glande thyroïde.
Ouais, ce coup est là.
Les deux snooze.
Lundi et jeudi,
18h.
96.9, c'est pas pour les doux.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter...